J'ai souvent songé aux cris de joie et de peine que le vent porte en lui depuis si longtemps. Combien de voix, de chants et de pleurs se sont tus? Combien de guerres et de silences engloutis par la tempête et balayés par le temps? Tous soufflaient, jusqu'au moindre écho. De toutes ces vies comme autant de courants d'air de par le monde, il n'en reste que l'embrun à l'orée des plages. Quels secrets révèlent les orages quand nous croyons juste entendre le vent?
Au pied de l'Himalaya, la vallée de Katmandou, on appelle ça les chevaux du vent. Ce sont des drapeaux colorés qui portent les prières des habitants. Et ils sont fixés, non pas simplement dans les lieux sacrés, mais au bord d'une route, sur une montagne, entre deux arbres, sur un promontoire, où il y a quand même une qualité esthétique du paysage. Elle est partout, c'est vrai. Et ces chevaux du vent, eh bien, elle donne une communication entre les habitants. Et on peut accrocher son petit drapeau avec ses signes dessus et faire une chaîne encore plus longue. Et ça, ça n'a de sens que parce que le vent les agite. Et ce vent, qui est d'une pureté incroyable, porte ses prières l'au-delà et le gong des monastères amplifie et reprend en litanie leurs prières. Et l'écho du gong qui descend dans la vallée et réjouit les villageois. Et ça, c'est très beau.
L'inspiration du souffle.
Le vent dans la forêt, c'est là que pour moi il prend toute sa forme allégorique, notamment dans les monts d'Arrée, où je vais très souvent travailler à l'intérieur de la Bretagne. Le vent là-bas, il génère de la vie parce qu'il génère des formes dans les arbres en permanence. Donc une tempête dans une forêt, c'est autant de personnages qui avancent et qui reculent. Et je crois que le vent dans ces cas-là, c'est le metteur en scène en fait, dans la forêt. C'est lui qui va diriger ses acteurs et puis qui va parfois pousser à des extrêmes, parce que quand on est dans une forêt, on entend absolument tout. On entend les craquements, on entend le sifflement du vent, on entend le vent qui bat aussi, parce que ce dont on ne se rend pas compte, c'est que quand on va vraiment au cœur d'une forêt, qu'on n'est plus en lisière, ça produit comme une sorte de vombrissement absolument sourd qui ne siffle plus. Et donc on a l'impression d'être au milieu du vortex, en fait, presque dans l'œil du cyclone. Je le trouve plus menaçant, par exemple, dans une forêt qu'en bord de mer. Les arbres dégagent déjà une forme d'énergie particulière sans le vent. Je crois que quand le vent est là, de l'arbre émane une nouvelle forme d'énergie parce que tout se frotte, tout se chahute et l'ensemble crée une sorte de zone de... On est presque en dehors de la terre.
Un souffle, j'espérais, un air d'embarquement, là-bas, ailleurs. Je n'étais plus d'ici. Je m'écoutais. Tant de peur, abandonné. J'insultais les astres. Le vent m'a répondu. J'écoutais.
Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à vous. Le programme 2 qui sera en plus du bouquet, destination de Molène, pour vous sent, votre as.
Avis de grand frais, force 7, au coup de vent, force 8, de nord-ouest en cours, sur Ouest-Écosse, Nord-Irlande, ouest de Flanden, Stein, Dogger, Humber, Saint-Dédier, Ouest-Irlande, Mer d'Irlande, Sud-Irlande, Manche Est, Manche Ouest, Sol et Ouest-Bretagne, Cap Finistère, Nord et Sud-Gascogne. Atténuation progressive en force 5 par l'ouest des zones. Avis de coup de vent force 8 de nord-est à nord, position Viking, Butcher, Est.
Nous on est ici, petit vecteur. Donc la bouée verte, elle est Saint-Pierre. La latérale, elle est juste là. On va la laisser à droite et on suit la route. On a une route là, des petits pointillés marrons et puis on va essayer de suivre cette route-ci. Voilà. Après, on va passer dans le chenal des Lazes pour aller sur Molène. Voilà, on a un changement de route ici à la cardinale des Pourceaux. On va venir sur Babord, sur la gauche, et on va emprunter le chenal des Lazes qui passe entre deux plateaux rocheux. Ensuite, on a le phare de Maincorn là. On va laisser à peu près 0,025, on va l'arrondir. Et ensuite, on rentre dans la baie du Stiff. On a un alignement avec le sémaphore, hein, par ce qu'on appelle le bâton, une balise. Et ensuite, on va chercher la digue. C'est pas trop compliqué comme route. Bon, après, ça dépend des conditions météo. Hein, si on est en marée montante, marée descendante, au flot ou jusant, on modifie les routes, hein, suivant les conditions météo. Hein. Quelquefois, on remonte un peu plus dans l'ouest d'Ouessant pour revenir par la suite, pour enrouler toujours main de corde. Ou alors de l'autre côté, aller plus dans l'est, pour monter un petit peu plus haut dans le nord. Ça dépend de ce qu'on rencontre, surtout en hiver.
Au gré des impatiences, j'arpente le monde, contemplant le déjouement de mes stratégies. Vaste monde, petites jambes, et encore la tête ailleurs. Je tournais en rond dans le circuit fermé des habitudes, en quête d'un angle où m'appuyer. Absurde. Marcher à nouveau, sans calcul cette fois, déjà mes pas débordent du périmètre des certitudes. À force d'en sortir, l'inquiétant dehors conduisait au tranquille dedans. Cependant, même à deux coudées de moi, j'ignorais comment m'atteindre. Rien à savoir, tout à sentir, souffla le vent. « Tu n'es rien, » observa l'oiseau. « Alors cesse de vouloir être, » confirma le vent. « Ta solitude est ta liberté. Libérée des attachements, la rencontre devient possible. » Ainsi la vie s'exprime à travers ce qu'il incarne. Peu importe la langue, le langage immémorial inscrit aux confins des chairs s'active à l'instant où il cesse d'être craint. Nulle magie, de l'écoute, simplement. Le seul miracle tient à la profondeur de l'attention.
Ouest-Écosse, Nord-Irlande, Ouest-Fladen, Tyne, Dogger, Humber, Saint-Dédier, Ouest-Irlande, Mer d'Irlande, Sud-Irlande, Manche-Est, Manche-Ouest, Sol, Ouest-Bretagne, Cap-Finistère, Sud-Irlande, Cap-Finistère,
Cet avis avec force mentale. Entre Quéréon et Ouessant, on passait le passage du Front Vert. Hein, donc il y a toujours un petit peu de houle, un petit peu plus de courant disons, dans ce passage-là qui fait une forme d'entonnoir. Ouais. Après, ça, on va être à l'abri une fois qu'on aura tourné à Maincorn, à l'entrée de la baie du Stiff. Bon, on sera plus abrité. Mardi, je crois, mardi, mercredi, qu'ils annoncent un peu plus de vent. Sud-ouest, sud-sud-ouest, mardi, mercredi.
Ouais.
Ils annoncent 7, 6, 7, 35, 40 nœuds. Ouais.
c'est bon.
Arrivé Western Hostif, débarquement effectué pont cheminée par la coupée. Bonne journée.
C'est vrai.
J'aimais pas faire la pêche, je suis allée, je n'aimais pas ça. Moi, ce que j'aimais, c'était les balades dans la baie, mais à la godille. Je faisais le tour de la baie pendant des années, mais j'ai su godiller peut-être à peu près en même temps que j'ai su marcher, quoi, très petite. Et alors ça, alors c'était ma vie, quoi, c'était ma passion. Et j'allais souvent à la tombée de la nuit. Alors j'étais éclairée par le phare du Créache. C'est-à-dire, évidemment, j'allais par beau temps, mais je suis allée également par mauvais temps. J'allais sur le port, évidemment, je suis tout près, hein, c'était facile. Et les copains sur le port me disaient, tu as vu, c'est pas aujourd'hui que tu vas sortir, parce qu'il y a du clapot, il y a de la houle, quoi, il y a du vent. Bien sûr, j'aurais jamais eu l'idée de sortir par un temps pareil, c'est un grand vent, quoi, bon. Mais comme les copains me l'avaient dit, je dis, mince. J'avais pas envie d'y aller, ah ben tant pis, je vais y aller, quoi. Ben, j'ai eu du mal à revenir. J'étais complètement à la dérive parce que le vent me poussait, je me serais retrouvée en Angleterre ou je sais pas où. Je croyais déjà voir les falaises de Douvres. Mais bon, il se trouve que j'ai eu beaucoup de mal à venir. Alors, évidemment, j'ai pris la baie tout en travers, hein, comme ça. Alors, j'ai fait la baie comme ça, 7-8 fois, et j'ai pu rentrer dans le port. Et j'avais plus de peau sur les mains, hein, parce que c'était une horreur. Parce que je n'avais pas un petit bateau de plaisance, vous savez. C'était l'annexe de mon père qui était en gros bois. Et ma godille, mon ordi, dit un mât de bateau. C'est atroce. Et j'ai su après, quand je suis rentrée à la maison, mon père me surveillait. Il a vu. Et quand il est entré, il a dit à maman, il y a une folle qui se balade dans la baie.
De Ouessant, qui est assez dépourvue d'arbres, relativement faible en arbres, a été modelée par le vent. Elle a été modelée par la houle, mais la houle, elle est générée par le vent. Donc tout ce qui vient du paysage vient également du vent. On sent quelque chose d'aplani, de déchiré à la fois. Donc le vent circule dans ces espaces-là. Et ce qui est intéressant, et on le ressent quand on est dans le sémaphore et quand on entend ce vent, c'est que le vent vient frapper tous les éléments qui ne sont pas en deçà du paysage. Tout ce qui n'appartient pas à la plaine est frappé par le vent. On trouve des colonnes d'air en fait, on est traversé par des espaces, le vent n'est jamais tout à fait le même, même si les plaines ouest par exemple, selon la manière dont on va se placer, où on va se déplacer dans l'île, derrière les amas de rochers, en contrebas de la plage ou au contraire tout en haut, on va ressentir le vent de manière différente. Et comme il est puissant, il envoûte un petit peu et il crée en fait, je crois, une modification de la perception du paysage aussi. Qui plus est, quand il souffle très fort pendant les périodes de tempête hivernale, comme en janvier, en février, on n'a pas le même paysage. Parce que notre ressenti, il lutte, donc le paysage lutte également avec nous. Le fait de franchir les pas tranquillement, de se promener quand il y a force 1, force 2 en plein été, c'est pas le force 7 ou 8 qu'on a aujourd'hui où on est obligé de lutter pour marcher.
C'est l'oiseau dont je te parlais, là.
Ah oui.
Le fulmar boréal. Donc on voit que lui, le vent, c'est son truc. Hein. Aucun souci pour se diriger ou pour avancer. Il est plus embêté quand il n'y a pas de vent, lui. Avec ses ailes très, très pointues, très fines, et sur un même plan. Contrairement aux goélands qui ont les ailes plutôt arquées, qui sont des oiseaux plutôt côtiers. Ça, c'est un oiseau qui vit une partie de l'année en pleine mer, quoi. C'est ce qu'on appelle des oiseaux pélagiques. C'est un petit cousin des albatros en fait, c'est pas tout à fait la même famille, mais on est dans le même ordre au sein de la classe des oiseaux.
C'est le même là ?
Non, ça justement c'est un goéland, c'est un jeune goéland marin et on voit du coup qu'il a les ailes vraiment arquées vers le bas. Et ça c'est plus une caractéristique des oiseaux côtiers, ouais. Où sur les côtes le vent est beaucoup moins stable et du coup c'est une caractéristique morphologique plus adaptée au littoral. Voilà, là on en voit un en vol, c'est un fulmar. C'est assez trompeur, ça fait quand même 1m10 d'envergure. Vu d'ici on a l'impression que c'est beaucoup plus petit, mais c'est un petit peu comme en montagne, on perd un peu nos repères à l'échelle humaine, et du coup on a tendance à sous-estimer la taille des oiseaux, et de tout ce qu'on voit d'ailleurs, on n'a pas la notion des distances non plus. Donc tous ceux qu'on voit là, à peu près à 500 mètres en mer, ce sont des fulmars. Voilà, là par contre on a un goéland argenté qui est plus grand, hein. On voit que lui il fait une taille déjà respectable, hein. C'est à peu près 1m40 d'envergure et donc avec ses ailes beaucoup plus arquées. On sent qu'il est moins à l'aise quand il y a du vent comme aujourd'hui par rapport au fulmar, avec ses ailes très plates, là on le sent vraiment très à l'aise.
D'ici à hier, sur la peau ton baiser, et marcher encore, d'instant en instant. bientôt le vent finira. Jamais. Le vent se lève. J'explore la pointe des sentiments, celle où tout bascule. Est-ce cela la grâce, entre illusion et intensité? J'ai grandi dans mon corps d'enfant. Cette fois, je sais que je vais mourir. Je l'ai senti l'autre jour, le vent soufflait comme s'il fallait raviver la braise. Porteur de flammes désespérées face à la promesse du crépuscule, je brûlais. J'écris sans plus m'y égarer, tant je pressens à nouveau le souffle inspirer mes pas. Vers toi, avec toi, dans toi. Une danse si proche que nous en sommes le parfum. L'horizon ouvert, l'inconnu offert, dansons. Ce que nous pouvons perdre était déjà mort. Reste l'éternelle floraison des cœurs insouciants. Nos cendres attendront. Nous avons si peu consumé nos infinis. Même à l'orage, nos hurlevents murmurent déjà nos caresses. Je me réjouis de reconnaître le moment venu, l'instant de ton évidence.
Ça m'est arrivé de voir s'envoler pour la première fois des jeunes fulmars quand ils ont presque 2 mois là, dans les falaises. Ils ont les ailes qui sont suffisamment longues, ils ont les plumes qui ont bien poussé. Et donc il y a cet instinct qui les pousse à sauter dans le vide, qui est assez incroyable. On les voit depuis quelques jours battre des ailes comme ça pour s'entraîner et se muscler autour du rocher, des muscles du vol. Et puis, quand on les voit sauter, c'est forcément un saut vers l'inconnu. Alors ça peut être dangereux pour eux, parce que le vent peut à ce moment-là les rabattre vers la falaise, et donc il peut y avoir des accidents et une mort accidentelle. Mais généralement, ça se passe très bien, et donc ils volent directement, ils peuvent faire plusieurs centaines de mètres avant de se poser sur l'eau, reprendre un petit peu leurs émotions, et ensuite partir. Donc c'est vrai que très vite, ils sont prêts à s'envoler.
Quand on regarde la représentation esthétique du vent, depuis l'Antiquité, en Occident, c'est extrêmement difficile. On n'y a jamais réussi. Et c'est peut-être le seul élément de la nature qu'on ne peut pas représenter. Parce qu'on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas où il va. Et ce vent, ce souffle, il est indiscernable. Et les artistes ont eu un mal fou. C'est Botticelli, dans La naissance de Vénus, ce tableau admirable, où Vénus sort des eaux, d'une coquille, le vent est représenté à gauche, par Zéphyr et sa femme Chloris. Et c'est la première apparition du vent dans l'histoire. Jusque-là, 18e siècle, on présente le vent en un torse, avec des ailes sur la tête et puis des ailes sur les épaules. Mais on bute, c'est pas une allégorie, c'est extrêmement difficile. Et le soleil de Van Gogh, Le chêne, le courbet, en d'autres termes, tous les autres éléments de la nature, on peut les représenter. Le vent. C'est impossible. Les effets du vent, certes, les effets du vent sur les autres éléments de la nature ou de l'espèce humaine. Mais ce ne sont que des avatars. Mais le vent lui-même est une composante de la création artistique à partir de 1950 avec Calder. Où le vent, le souffle, il est partie prenante de sa création avec ses stabiles, avec ses mobiles. On est passé de la deuxième dimension où c'était impossible de le représenter, et simplement avec Calder, avec la troisième dimension, le vent donne vie.
Le jour s'est approché. Doucement, les larmes ont osé. Nous voici maintenant. À nouveau disparu, j'entends le son des craintes. La voix du cœur est un murmure. Celle des peurs pousse de grands cris. J'ignore si j'écoute ou si plus rien ne me parvient. La vie s'ébat à nouveau. Elle n'a jamais cessé. Étrange de l'avoir tant négligée. Je vais me pencher sur ton calme et ainsi enfin atteindre le mien. Dors bien, au creux de nous.
Ça, en fait, c'est être en pleine mer. Autour de la Saint-Marc, début mai, il y a souvent un dernier coup de vent. Voilà. Il ne faut pas sortir le bateau avant la Saint-Marc. Et donc, j'ai vérifié de mes yeux. Donc, j'ai vu, pendant une journée, il y a eu un bon coup de vent. Donc, ça a brassé et on sentait le sel dans l'air, quoi. Et le lendemain, en fait, ça avait salé toute l'île. Et c'était vraiment étonnant parce que donc on voyait les cristaux de sel sur les feuilles. Mais deux ou trois jours après, en fait, ça avait jauni tout. On se serait cru en automne, au mois de mai.
Thank you.
Dans les temps immémoriaux, l'empereur de Chine commanda à tous ses gouverneurs de province de recueillir dans de fines fioles de cristal le vent qui soufflait sur son royaume. De la chaîne de l'Himalaya au désert de Gobi, au pied des vallées, aux coteaux couverts de théiers, entre les rhododendrons au bord du Pacifique, près des pommiers en fleurs dont le vent les transformait en autant de pétales que de flocons, ou encore celui qui courbait les hampes des orchidées, sans oublier celui qui ensorcelait les îles. Ces flacons scellés du sceau des provinces de l'Empire étaient rapportés à Pékin. Ils étaient conservés à la cité interdite. Chaque soir, au clair de lune d'été, du temple du ciel où l'on rend le culte aux dieux, l'empereur les agitait. Cristal et vent se transformaient en son, donnant un concert le plus dissonant, mais aussi le plus précieux. Car la musique passait les montagnes, elle remplissait les vallées, tout le royaume en était couvert et recouvert. Tous et toutes l'entendaient, l'écoutaient, le vénéraient. La communion par le concert du vent de l'empereur de Chine. La nuit d'un changement de millénaire, il y eut une forte tempête. L'empereur, au temple du ciel, brisa les précieuses fioles de cristal. Les vents, les gaz se mélangèrent à la pluie. Les grosses gouttes d'eau recueillies dans des bassins de porcelaine, qui servaient d'aquarium aux poissons, se transformèrent en breuvages dignes des dieux, en un parfum à l'élixir suave. J'appris que quelques précieuses gouttes seraient encore pieusement conservées dans des monastères reculés. Que les gardes rouges, ayant brisé les bassins de porcelaine lors de la révolution culturelle, le liquide se serait évaporé. Le vent enveloppa et transporta le tout.
Tu es là, délicate, si loin, trop loin. Au revoir, amour, je te rejoins. Embrumé encore, pensée vagabonde. Le vent n'a rien épargné, souvenir et joie, tristesse. Silence. Un monde enneigé, immaculé d'absence. L'écume alentour signe la fin de la terre. Ça commence. Souffle. Je respire. Souffle. M'emporte. Je respire. Division encore, rassemblée, enfin, partir. Déjà.
Ici, c'est la salle d'honneur. Tous les phares ont une salle d'honneur avec une représentation de la Rose des Vents. Et au plafond également. Ben, disons que c'est les quatre points cardinaux et également les points intermédiaires. Quoi. Entre nord et ouest, il y a nord-ouest, ainsi de suite, nord-est, sud-est, sud-ouest. Donc du coup, ça fait une étoile à 8 branches plus qu'à 4, quoi. Ce sont les tempêtes qui ont des noms, le Gualarn, le Cornoc, donc ce sont des vents ouest, nord-ouest, ce sont les pires. Comme toute tempête commence dans le cadran sud-ouest et finit par le nord-ouest, par une rotation des vents. Donc on peut dire que du Suroît jusqu'au Noroît, c'est vraiment mauvais, quoi. On est toujours à l'affût quand même du moindre bruit que peut faire le vent, hein. Donc on entend dès qu'il y a un bruit suspect ou un truc comme ça, on dit hop là, ici il y a quelque chose qui se détache et quelque chose qui va s'en aller, on surveille quand même, quoi. Donc s'il n'y a pas une plaque, s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait dégager. Et enfin en mer c'était pareil, le moindre bruit, surtout que le vent en plus ça a résonné dans le phare, donc c'était une grande tour, le moindre bruit suspect, on se dit qu'est-ce qui se passe, quoi. Est-ce que c'est en taille clac, c'est quoi, c'est le câble du treuil qui s'est détendu ou qui frappe contre le phare et... Si le câble partait au vent ou était embarqué par la mer, la relève par bateau, c'était fini, quoi. Parce que si on entendait le vent siffler comme ça, on se disait « Ah bah ça y est, ça va être foutu, on descendra pas, quoi. » Parce que la mer va être grosse et tout, donc après 2 semaines de phare, où on aurait bien aimé poser le sac à terre et revenir à la maison une semaine, bah, on peut pas le faire des fois, quoi.
Mon père était pêcheur aux alentours d'Ouessant, qui est très 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 dangereux. Et à l'époque, il fallait vraiment être ouessantin pour connaître tous les lieux, tous les rochers. Parce que vous savez, les rochers que l'on voit, qui sont très impressionnants, ils ne sont pas dangereux. C'est ceux qu'on ne voit pas. Et vraiment, c'était très difficile. Alors évidemment, quand on dit un grand vent, ce n'est pas forcément une tempête, mais ça apporte de la houle. Alors évidemment, sur un petit bateau de pêche, qui n'a aucun confort, il était quand même 2 matelots, c'était quand même pas un grand bateau. Alors évidemment, c'était angoissant. On avait bien hâte de voir la voile au large quand il rentrait. On peut être le meilleur marin et périr en mer, hein. D'ailleurs, c'est ce qui est arrivé. Thank you.
La notion du vent, elle vient immédiatement dans l'éducation, notamment avec la tempête, parce qu'il y a certains soirs, on ne peut pas fermer les volets. Donc on ferme juste le rideau à l'intérieur, et l'enfant sait que c'est la tempête. Alors la tempête, ça crée tout un univers onirique, parce que c'est des bruits d'abord, le vent. Donc pour mes enfants, c'est d'abord du bruit, et c'est d'abord l'impossibilité de se rendre sur la plage. J'entends les grandes tempêtes hivernales qui sont soit désagréables, soit carrément dangereuses pour accéder au plan d'eau. Il y a des endroits dans le jardin où on n'y va pas à cause des arbres quand il y a un grand vent. Donc le vent, c'est la période d'enfermement positif à la maison aussi. On ne va pas aller dehors, on est obligatoirement ensemble et on se coupe aussi du reste du monde. Le vent, c'est aussi ces trois dernières années des coupures d'électricité à la maison de plusieurs jours. Et puis on en fait quelque chose de positif parce que finalement on revient à une forme d'obligation. On ne reçoit pas les courriels, on ne se chauffe plus à l'électricité, on cuisine différemment. Dans l'absolu, c'est des périodes de coupure, quoi. Et le vent, les excès du vent, en tout cas, peuvent amener ça. C'est assez poétique, je trouve.
Partir si loin pour que jamais plus. Je ne vois déjà ne pas savoir, ni demain, ni demain. Et ce soir s'oublier. Un souffle effleuré et soudain se taire, au sol, à la poussière, et d'un infini pour un infini. Abattre la terre, le soleil se fend, découpe le lien du cœur à la raison, un lien de corde. À nous pendre parfois, à nous tendre souvent, et claquer pour que jamais plus. Premier pas ailleurs, quitter les chemins d'hier. Le vent souffle, je l'accompagne. La vie est forte quand elle s'accueille dans la douceur et le discernement. La vie, l'amour, la clarté. Trois mots pour un même mouvement, inattendu et joyeux, hors du fantasme du contrôle et des peurs. La vie est forte car elle n'a pas besoin de l'être. Elle est simple, souffle en chacun et réunit ceux qui écoutent.
Là, vous avez eu du grand vent, voire une tempête, et ça, c'est presque un privilège, parce que c'est pas tout le temps, quand même. Là, on l'a eu pendant 5 semaines, il y a un ras-le-bol, et c'est quand même pas tout le temps. J'ai connu des hivers où c'était, il n'y avait pas d'accalmie, à marée basse, parce que quand la mer monte, c'est vrai qu'on a des rafales, ça c'est sûr, les rafales sont terribles, mais ça se calme. Et là, il y a des moments, ça se calme plus, et ça, c'est très fatigant. Et une année, j'ai appris ça par quelqu'un du continent qui était venu sur Wissant. Il était très étonné que tous les Wissantins se tenaient courbés, bien sûr pour lutter contre le vent devant soi, étaient restés comme ça, même par très beau temps, courbés, alors qu'il faisait pas du tout de vent, il faisait un temps magnifique, et qui parlaient très très fort pour s'entendre, quoi. Ça, je l'ai connu. Thank you.
Bah, t'as le vent d'est. Le vent d'est amène surtout nord-est, en fait. C'est les maladies du continent l'hiver. Et tous les microbes arrivent, en fait, avec le vent du nord-est. Enfin, c'est ce qu'on se dit, en tout cas, dans le genre les histoires qu'on se raconte.
Pour les phares en mer, forcément, j'ai souvenir également que par des vents d'est, de sentir l'odeur d'épandage des paysans sur le continent, et ça porté par le vent et par la mer, donc ça venait jusqu'au phare quand même, quoi. Ça fait quand même une vingtaine de kilomètres quand même, donc le matin en ouvrant les fenêtres, on a l'impression d'être dans la cour de la ferme presque.
La mer était folle, brisée. Le temps n'avait plus d'importance. La mémoire rejoint l'écume et la vague se retire. Échoué à l'endroit du vertige, mes lèvres goûtent le sel du cœur égaré. Le souvenir encore s'obstinait à refuser le présent. La tempête imposait ses pleurs aux rochers. Et la nuit déjà consumait l'horizon. Combien le temps accumule de tristesse quand il regarde en arrière. Le chagrin croit en son histoire. C'est ainsi qu'il n'y voit rien. La vie surgit hors de toute mémoire, au-delà de tout projet. Le vent souffle à nouveau. Je le sens. J'ai cessé d'être une ombre.
La vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie. Et on pourrait prolonger en disant que le vent ne vaut rien, mais rien ne vaut le vent. D'ailleurs, la vie, le vent sont indissociablement liés. C'est une chaîne. À la naissance, le nouveau-né expurge du vent, le souffle, le cri. Et les pédiatres, Robert Debré, disaient qu'on peut deviner, anticiper ce que sera l'avenir de cet enfant en fonction du cri qu'il a prononcé à sa naissance, sa modulation, sa force. Et puis, au bout de la chaîne, on sait très bien qu'avant de fermer les yeux, il y en aura un dernier soupir, un dernier souffle. Donc le vent, la vie sont intimement liés et les Incas appellent les nouveau-nés les enfants du vent, et les mourants les frères du vent. Je crois que la vie, le vent, c'est l'avers-revers d'une médaille, et qu'on ne peut pas les distinguer, on peut difficilement les dissocier, et ils sont là, non pas interchangeables. C'est plus que complémentaire à l'essence même, je crois, à l'essence.
C'est quelque chose qui dit la terre, c'est la respiration de la terre. Et c'est en ce sens qu'on doit respecter la Terre, c'est que s'il est là, trop présent ou pas assez présent, c'est lui qui va nous dire comment il modèle la Terre. C'est lui qui va attiser le feu dans les régions qui subissent des incendies, c'est lui qui va créer des tempêtes plus fortes que les autres. C'est la vie dans ce qu'elle a de plus basique, en fait. C'est la vie de la Terre, c'est la respiration. C'est le toucher du lieu, en fait, le vent. C'est une forme de toucher du lieu. C'est-à-dire qu'il est transparent, il est invisible, mais on le ressent plus que tout autre.
Là, on a un fulmar là, posé dans la falaise. Il y a une tête blanche. Ces oiseaux en particulier, là, les oiseaux pélagiques, peuvent remonter au vent. Un peu à la manière d'un voilier qui va louvoyer et tirer des bords. Et bien, les oiseaux peuvent aussi se servir du vent, prendre de la vitesse pour avancer contre lui. Alors, ça paraît un peu abstrait comme ça, mais il faut imaginer en trois dimensions, moi, c'est comme s'ils décrivaient des Z, la lettre Z, c'est-à-dire qu'ils vont arriver avec de la vitesse derrière une vague, à l'abri du vent, contre le vent, et puis avec cette vitesse, ils vont s'élever dans le ciel pour ensuite continuer à avancer. Mais voilà, à l'abri des vagues, avec de la vitesse, ils arrivent comme ça à avancer contre le vent. Ce sont des oiseaux qui peuvent, a priori, faire plusieurs centaines de kilomètres dans la journée, quasiment sans battre des ailes. S'il n'y a pas de vent, c'est beaucoup plus compliqué pour eux.
Ah oui.
Ouais.
Milieu de falaise, plus ou moins.
Tu peux sortir la longue-vue, hein. Ça évite d'avoir...
Ah ouais.
Il dort, notre ami Fulmar. On voit, il a la tête sous l'aile.
Éole, le cœur battant, dévaste les promesses sans ancrage. Au ciel infini, cessez de se perdre, et au vent portez ma joie. Nous y voilà, à l'inspiration du souffle. Marcher au bord de l'eau, au bout d'un monde, d'île en île, point de suspension vers cette phrase à écrire. Un air d'ailleurs, de sel, de larmes de froid, de soi et tout entier emporté ailleurs. Respirez l'ensemble à la scansion d'un pas de deux, explorez les vents, à l'infini nous rassembler.
Der Wagen.
L'inspiration du souffle. Une création de Jean-François Sprissigaud. Équipe de réalisation, Frédéric Changenet et Nathalie Salle. Avec Benjamin Deroche, Thierry Guéguin, Violette Morin, Fanche Quénaud, Philippe Rouillac, Mathieu Thomas. Merci à l'équipage de la Peine Arbed, à l'équipe du Musée des Phares et Balises et Pollux. Inès De Bruyne et Irène Emelianenko. Créationnaire 2016.